Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir pour le vernissage de mon roman. Je suis vraiment content de vous voir si nombreux. Donc j'espère que ce livre va vous plaire, hein, qui va éveiller en vous quelques émotions. Mais peut-être avant d'en dire un peu plus, je voulais quand même remercier un certain nombre de personnes. Donc les personnes qui m'ont aidé, soutenu pendant et après ce long processus d'écriture. Donc je veux remercier particulièrement Anaïs, ma première lectrice. Qui m'a écouté et réécouté lire mon texte à haute voix. Donc ça, il y a eu pas mal de versions. Et qui m'a aussi prodigué ses très bons conseils. Je remercie également Mathieu, mon ami qui est là, présent ce soir. Je le remercie pour son regard d'expert, hein, et également pour ses critiques pertinentes et bien sûr pour son amitié. Je remercie également Sevan, qui, pour ses précieuses corrections, hein, qui a lu attentivement, qui m'a donné son avis sur des choses qui n'allaient pas. Donc merci beaucoup. Merci aussi. Merci aussi à Eric qui a lu les premières versions du manuscrit. Et aussi à Sophie qui est là, qui a lu une version. Donc merci à eux. Et bien entendu, je remercie Encre Fraîche, particulièrement Alexandre et toute l'équipe, bien entendu, qui ont cru en ce projet, qui l'ont porté, qui ont permis d'avoir aujourd'hui ce bel ouvrage. Parce que même si ce qui est important, ce sont les mots, hein, l'immatérialité des mots, ça reste quand même un livre. Et un livre, il faut que ce soit un bel objet. Et je suis vraiment content de cet objet et du résultat. Donc merci beaucoup à vous. Peut-être pour présenter quand même mon ouvrage, pour savoir où vous mettez les pieds. Bon, il faut savoir que j'ai écrit ce livre suite à un drame qui m'a particulièrement affecté. Du coup, j'ai voulu revenir sur ce drame par le biais de l'écriture et plus précisément par le biais de la fiction. Et même si ça peut paraître un peu étrange d'utiliser la fiction, les mécanismes de l'invention de l'imaginaire pour parler du réel, je pense que c'était essentiel pour prendre un peu de distance, de recul, voire même de hauteur sur le sujet. Et je pense même que j'aurais pas pu rédiger ce livre autrement que par la fiction. Je suis convaincu que, d'une certaine manière, la fiction permet aussi d'éviter l'autocensure et d'aborder des choses un peu plus riches ou de manière détournée. Donc ça, c'était essentiel pour moi. En ce qui concerne le contenu, donc quand même un petit teasing pour vous donner envie de le lire. Donc ce livre, il parle de quoi? Il parle entre autres d'amitié, l'amitié que tisse le narrateur et le personnage principal dans le cadre d'un atelier d'horlogerie. C'est important quand même ce cadre, étant donné que c'est autour de ce lieu, l'atelier, que se construit le récit, l'ensemble du récit. Mais en termes d'amitié, ce n'est pas le cadre de l'atelier, ce n'est pas l'amour du métier ni celui de l'horlogerie qui est le point de départ à l'amitié. C'est plutôt un amour des mots, un amour du bavardage, même une passion, on pourrait dire, pour un langage qui est celui de la démesure, de l'excès. Et c'est ça qui leur permet de remplir les heures de travail et de tromper l'ennui, d'une certaine manière. Et surtout, et c'est ça quand même le cœur du livre, le récit est construit autour du personnage principal, Léo, qui est surnommé le cow-boy, qui est un être un peu fantasque, qui est dévoré par de nombreuses passions, et qui est animé par une folie, on pourrait dire légère, mais une folie au sens positif du terme, parce qu'elle lui permet de transgresser les règles de l'atelier, de la société en général, ce qui déconcerte ses collègues, son entourage, parce qu'il le fait avec une manière si naturelle qu'on a du mal à lui en vouloir, d'une certaine manière. Et malheureusement, au cœur du récit, cette folie positive va changer, liée à une rencontre qui va changer la nature de sa folie. Donc ça ne va plus être une folie qui libère, ça va être une folie qui emprisonne. Et pour la suite, il va falloir lire le livre pour comprendre ça en détail. Donc là, je vais céder quand même la parole à Mathieu qui va lire un extrait. Donc avant qu'ils lisent, je vous remercie encore d'être venus si nombreux. J'ai pu voir que vous avez vu qu'on pouvait acheter le livre juste à côté, là. Donc n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition pour échanger, discuter. Je suis là ce soir aussi pour ça, pour vous, et pour le livre, et pour tout ça. Donc merci beaucoup. Je me renverse du vin dessus. Okay. Donc Mathieu, je t'ai fait lire un extrait du livre. Et merci aussi de lire cet extrait.
Je n'oublierai jamais la première fois où je le vis entrer dans l'atelier flambant neuf de la rue des Cyclones, suivant de son pas lourd et assuré le chef à travers l'allée des établis, avec des Santiago lustrés prolongés par un jean noir remonté jusqu'au nombril dans lequel était profondément enfoncée une chemise à carreaux rouges et bleus, délimitée par une boucle de ceinture démesurée qui affichait, non sans une certaine provocation, « Not dead yet » en lettres dorées. Il était difficile de savoir quel effet il cherchait à produire. Il contrastait en tout point avec celui qu'il appellerait durant les prochaines années le Hollandais, petit blond à la peau diaphane qui portait en toutes circonstances un austère complet noir et blanc. Lui, la figure enluminée du fou joyeux, son regard guilleret semblait dire à qui voulait l'entendre que le monde était à portée de son Stenson, qu'il tenait dans sa main droite. L'autre, le visage crispé, ses nombreux tics faciaux, aussi ridicules que gênants, dénotaient une soumission profonde au tracas du quotidien. Ce dernier pointa timidement le nouvel arrivant du doigt. « Voici Léo, il va travailler avec nous. Il est prêt à apprendre, il commence demain. J'espère que ça va bien se passer. » Après une brève présentation de notre petite équipe d'horlogers qui remplissait difficilement l'espace qui nous était attribué, cela faisait à peine une semaine que nous avions été relogés dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates, le chef retourna au déballage de ses cartons en laissant l'apprenti se familiariser avec son nouvel environnement de travail pour lui permettre d'observer ce que nous faisions et découvrir un métier qu'il ne connaissait à vrai dire pas. Léo s'approcha de chacun de nous, en tendant sa grande main rugueuse, une sorte de broyeuse qu'il déployait avec vigueur pour mieux la replier afin de saluer et maîtriser son interlocuteur. Lorsqu'il se dirigea vers moi, j'esquissai un petit sourire moqueur que je ne pus contenir. Ce style de cow-boy contrastait avec toutes les représentations, aussi diverses soient-elles, de la jeunesse environnante que j'avais en tête. Ce personnage semblait surgir d'un autre âge, d'une autre réalité, mais, en même temps, du haut de ses 19 ans, je compris très vite qu'il avait cette capacité, rare, à vivre l'immédiateté des événements les plus simples et les plus naturels. On percevait en lui une sorte de présence au monde authentique, ce qui mettait les gens rapidement en confiance. Il me retourna alors un sourire franc et me demanda avec sa voix forte et éraillée. « Et toi, tu fais quoi ?» Avec un certain détachement, je lui expliquais les principales étapes du montage du calibre dont j'étais responsable et qu'il allait devoir également assembler. Nous ne le savions pas encore à ce moment-là, mais jusqu'à mon départ, 8 ans plus tard, nous allions former, c'est le moins que l'on puisse dire, une équipe atypique qui suscita un mélange de mépris et de fascination au sein de l'entreprise. Tout en laissant sortir de ma bouche des paroles désincarnées, mon attention était sollicitée par autre chose. Des interrogations et des images animaient mon cerveau mal avisé. Qu'est-ce qui a bien pu le conduire à s'intéresser à l'horlogerie? Est-ce un choix mûrement réfléchi ou une lubie? Je trouvais une quantité de réponses grotesques qui n'eurent pour effet que de renforcer mon attitude amusée et condescendante à son égard. Il exauce le vœu d'un parent proche qui, sur son lit de mort, lui a fait promettre de devenir gardien du temps. Peut-être veut-il apprendre le métier car il a une vieille horloge dans son ranch qui est en panne depuis des lustres. C'est sûrement pour sa machine à voyager dans le temps. C'est toujours important dans ce cas-là d'avoir une montre de précision que l'on sache réparer. Du reste, est-il venu à cheval? C'est à cette étape de mon questionnement que j'entendis sa voix me rappeler à la réalité. En somme, l'horlogerie, c'est comme le moteur d'une voiture, mais en plus simple. Un peu déconcerté par cette remarque, je ne sais pas quoi répondre. Je te dis ça parce que je suis mécanicien, j'ai un BEP. Le cow-boy avait donc trempé ses mains dans le cambouis et pris un virage à 45 degrés. En poursuivant la conversation sur un sujet moins impersonnel, j'appris que ce n'était pas dans le monde de l'automobile qu'il fallait chercher son dernier pointage professionnel en date. Le cow-boy, malgré son jeune âge, avait déjà traîné ses Santiago ailleurs. Après son apprentissage, Léo avait travaillé pendant 6 mois dans un garage, temps suffisant pour confirmer les doutes qu'il avait depuis un moment. Bouffer de l'huile de vidange matin et soir, ce n'est pas une vie. Je laisse ça à ceux qui n'attendent rien d'autre qu'une mort à 50 ans. Il quitta son patron et trouva provisoirement mieux, si l'on peut le dire ainsi. Caissier dans un supermarché, les horaires fixes et la possibilité de garder de l'énergie pour des activités plus intéressantes lui procuraient la saveur d'une joie sobre. Durant cette période de transition, son véritable plaisir était à chercher à l'origine de sa démarche. J'hésitais à devenir conducteur professionnel de sidecar cross, donc en bossant à temps partiel dans la vente, Ça me laissait pas mal de temps pour savoir si j'avais le niveau et les reins assez solides pour vivre de ça. Je lui fis remarquer que le sidecar n'était peut-être pas le choix le plus judicieux s'il ne voulait pas mourir avant 50 ans. Ça n'a rien à voir, dans le sidecar il y a de la jouissance. Je ne compris pas vraiment où il voulait en venir. Dans le doute, je n'insistais pas. En tout cas, il n'avait pas préservé dans cette direction. Son singe s'était fracturé le bassin et déplacé plusieurs vertèbres après une réception ratée sur le circuit d'entraînement. Ses espoirs de carrière sportive s'étaient alors évaporés. Le singe, m'expliqua-t-il, c'est le passager, celui qui te permet de tourner dans les virages avec la force de son poids, si tu vois ce que je veux dire. Il joue les équilibristes, grimpe sur le conducteur, se cramponne à la barre d'appui, cul à ras le sol, il défie la gravité, ce taré. C'est pour cela qu'on l'appelle comme ça. Sans singe digne de ce nom et en qui on a confiance, pas de sidecar. Et un bon singe, je peux te dire, ça ne court pas les rues. Il faisait claquer ses phrases avec un naturel et une rudesse hypnotique, me parlait comme s'il me connaissait depuis toujours. J'étais suspendu à ses lèvres et me mordait la joue intérieure pour ne pas rire. Cela provoqua l'hilarité des collègues qui s'échangeaient regards complices et ricanements sonores, ce qui ne troubla aucunement Léo. Il poursuivit son récit, rien ne pouvait entraver sa verve enflammée.
Merci. Merci pour ta lecture.